France Inter.
Bonjour à tous. L'un estime que c'est à la Russie de mettre fin à la guerre. L'autre affirme que l'Ukraine peut mettre un terme au conflit presque immédiatement. À quelques heures de leur rencontre à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky et Donald Trump ne semblent pas sur la même longueur d'onde. On va faire le point sur les lignes rouges des uns et des autres. Alors que les Européens viennent en renfort, Emmanuel Macron, Keir Starmer, arrive à Washington, tout comme Giorgia Meloni. Ces bonnes relations avec le président américain vont-elles faire la différence? On prend la direction de Rome dans ce journal. Dans l'actualité de ce lundi, également la canicule qui s'achève enfin. Mais la vigilance reste maximale dans l'Aude face au risque d'incendie. Peugeot qui lance une opération de rappel. Cela concerne certains modèles de la 308 en raison d'un souci sur les ceintures de sécurité. On parlera aussi de la rentrée littéraire qui commence avec beaucoup de premiers romans et c'est une preuve de vitalité dans le secteur. Et puis attention à ne pas faire une confiance aveugle à ChatGPT pour préparer ses vacances. On vous raconte la mésaventure de ces voyageurs qui se sont sentis trahis par l'intelligence artificielle.
France Inter.
Il y aura d'abord un tête-à-tête entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump et puis la cavalerie européenne pourra venir à la rescousse du président ukrainien. Emmanuel Macron, ses homologues allemands, britanniques, italiens, finlandais seront conviés dans le bureau ovale ce soir avec la présidente de la Commission européenne, le chef de l'OTAN, pour une réunion multipartite. Objectif, tenter de se faire entendre auprès d'un président américain qui avait très mal accueilli, c'est le moins que l'on puisse dire, le président ukrainien lors de sa dernière venue à la Maison-Blanche. Bonjour Boris Loumagne.
Bonjour Céline.
Vous êtes à Kiev pour France Inter. Vous ne sentez pas beaucoup d'espoir à quelques heures de cette rencontre. C'est plutôt la prudence qui domine.
Oui, ici en Ukraine, la population n'attend pas de grandes avancées à l'issue de ce sommet. Elle espère surtout que son président ne reculera pas face aux exigences russes. La principale proposition de Moscou pour parvenir à un accord, l'abandon du Donbass par Kiev, est inacceptable pour l'immense majorité des Ukrainiens que nous avons interrogés ces derniers jours. Mais le problème, c'est que pour Donald Trump, c'est la solution miracle pour obtenir la paix. Volodymyr Zelensky va donc devoir tout à l'heure s'opposer au président américain sur ce point, sans pour autant le braquer, parce que d'autres questions importantes sont à négocier, comme des garanties de sécurité pour Kiev en cas d'éventuel cessez-le-feu. Le président ukrainien sera en position d'équilibriste donc ce soir, et il espère pouvoir compter sur les chefs d'État européens, à eux d'essayer de convaincre Donald Trump du caractère excessif des propositions russes.
Merci Boris Loumagne, envoyé spécial de France Inter à Kiev. Et la mission sera d'autant plus difficile que le président américain semble avoir repris à son compte une partie des exigences de la Russie depuis le sommet en Alaska. Bonjour Justine Leblon.
Bonjour.
De la rédaction internationale, Donald Trump vient d'ailleurs de faire connaître ses lignes rouges.
Oui, pas question de récupérer la Crimée donnée par Obama, écrit Donald Trump, et pas question pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, précise-t-il en majuscule cette nuit sur son réseau Truth Social. Alors la Crimée annexée par Moscou en 2014 est le seul territoire évoqué explicitement par le versatile Donald Trump. La question du Donbass n'a pas été évoquée pour le moment, mais son émissaire Steve Witkoff cite une importante discussion sur Donetsk, région qui constitue la priorité militaire du Kremlin.
Et en même temps, Justine, les États-Unis se disent prêts à certaines garanties de sécurité pour l'Ukraine.
C'est ça. Alors sans entrer dans l'OTAN, ils pourraient proposer une garantie de sécurité similaire à l'article 5 de ce traité qui assure une assistance mutuelle en cas d'attaque armée, développe Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN.
Tout ça est un peu un jeu sur les mots. L'idée est de rassurer les Ukrainiens pour leur dire que s'ils acceptaient une forme d'occupation dont il faudra s'assurer qu'elle soit temporaire et pas formalisée juridiquement de leur territoire, ça n'est pas pour que les hostilités recommencent dans quelques semaines ou quelques mois.
Camille Grand, invité ce matin sur France Info. En tout cas, les Européens qui accompagnent Volodymyr Zelensky ne cessent de le rappeler. Pour eux, les garanties de sécurité sont cruciales aujourd'hui. Emmanuel Macron estime même qu'il en va de la sécurité des Européens et de la France.
Merci Justine Leblon. Alors justement, comment faire entendre ce message? Dans la délégation européenne, une dirigeante se targue d'avoir une excellente relation avec Donald Trump, c'est Giorgia Meloni. Va-t-elle pour autant réussir à porter la voix des 27? On va voir ça avec vous. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
En direct de Rome. Quelles sont les positions de la première ministre italienne? Quelles sont ses lignes rouges?
La première ligne rouge, ne pas braquer Donald Trump. C'était le sens du communiqué conciliant de Giorgia Meloni après le sommet en Alaska. Finalement, une fenêtre s'ouvre pour parler de paix. Et d'après le Corriere della Sera, hier, elle a mis en garde la coalition des volontaires contre un risque de chaos si USA et Europe divorçaient. Cela veut-il dire qu'au nom des bonnes relations avec Trump, Meloni est prête à mettre la pression sur Zelensky? Hier soir, elle insistait sur la souveraineté de l'Ukraine. L'Italienne soutient Kiev sans relâche depuis 3 ans, malgré une opinion et une classe politique réticente. Et en avril, elle venait seule chez Trump. Cette fois-ci, elle est dans le groupe européen. Autre fil rouge, au chapitre des garanties de sécurité, à Washington ce soir, Giorgia Meloni plaidera, comme depuis des semaines, pour que l'Ukraine bénéficie de l'intervention de l'OTAN, même sans en être membre en cas de nouvelle agression russe. Trump, on l'a entendu, semble envisager cette option. Et du coup, ici, on estime que l'Italienne l'a influencé. Mais pas question d'envoyer des troupes au sol. De quoi accréditer dans la presse transalpine la thèse de différents récurrents avec Emmanuel Macron qui porte cette idée.
Bruno Devic, correspondant de France Inter à Rome. Le défi pour l'Europe, on l'a compris, ce sera donc de maintenir un front uni au cours de cette réunion ce soir à la Maison Blanche, alors que la guerre, elle se poursuit. Une frappe de drones russes a fait 7 morts, dont 2 enfants la nuit dernière à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Des bombardements qui visent à humilier les efforts diplomatiques, affirme Volodymyr Zelensky dans un message publié il y a quelques minutes. Et puis pendant ce temps, c'est en Égypte que se mènent les discussions pour tenter de mettre fin à la guerre au Proche-Orient. Le Hamas a reçu de la part des médiateurs une nouvelle proposition de cesser le feu dans la bande de Gaza. Le mouvement islamiste palestinien indique que des consultations internes seront menées au sein de sa direction.
France Inter, le journal de 13h, Céline Asselot.
343 000 hectares brûlés depuis le début de l'année. C'est un nouveau record que vient de battre l'Espagne. Et ce n'est pas terminé. Les incendies continuent d'être violents dans la péninsule ibérique et le bilan vient de s'alourdir. Un pompier est mort au Portugal, un autre en Espagne. Des troupes supplémentaires viennent d'être déployées par les autorités espagnoles. Des routes, des lignes ferroviaires sont toujours fermées dans le nord-ouest du pays, ainsi qu'une partie du chemin de randonnée vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors en France, la situation est davantage sous contrôle, mais l'incendie dans le massif des Corbières ne sera pas éteint avant plusieurs jours, disent les pompiers qui restent extrêmement vigilants dans un contexte d'intense sécheresse. Écoutez, Lucie Roche, c'est la secrétaire générale de la préfecture de l'Aude.
Globalement, la situation est stable. Il y a effectivement beaucoup de travail sur place pour les sapeurs-pompiers pour éteindre tous les différents points chauds. Sur le feu du 5 août, aujourd'hui, il y a un petit peu moins de 300 pompiers qui sont uniquement sur le terrain du feu de Ribaute, donc pour assurer le traitement des points chauds. Et on en a 170 autres qui sont répartis sur le dispositif préventif feu de forêt. Et évidemment, à cela, il faut ajouter dans le département tous les autres sapeurs-pompiers qui sont mobilisés. Donc on a, à un instant T, 1200 pompiers qui sont mobilisables. Le dispositif qu'on a prévu, il donne la capacité de faire face. On est très conscient du risque, des conditions de sécheresse qui sont extrêmes, du vent, c'était le cas ce week-end, qui un facteur aggravant, et puis une forte affluence sur le territoire. Donc le risque, il est réel, et c'est bien pour ça qu'on mobilise des moyens très importants et qu'on est amené aussi à prendre des mesures administratives qui sont inédites.
Lucie Roche, secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, au micro d'Erwan Chassin. Heureusement, la canicule recule nettement ce début de semaine. Il ne reste plus que 7 départements vigilance orange, et l'alerte sera levée demain matin. On fera le point tout à l'heure sur les prévisions météo. Et en Provence, les vacanciers épuisés par la chaleur en sont presque venus à espérer le mauvais temps. Reportage de Gabin Grulé sur le marché d'Auriol.
Lincoln, 7 ans, marche à l'ombre entre les rayons de fruits et légumes.
Moi, j'aime pas ça parce qu'il fait trop chaud.
Avec sa sœur Chiara, ils ont les cheveux couverts de sueur.
Ouais, j'ai envie qu'il pleure parce qu'au moins, ça fait frais.
Parce qu'on meurt de chaud ici.
Sur le marché, on a encore les casquettes, les chapeaux, les éventails. Marie, 83 ans, remplit son sac de tomates bien fraîches.
On va respirer.
Depuis le début de la canicule, elle ne sortait presque plus.
Vous les fermez à partir de 9h du matin, fenêtre fermée, dans le noir. Alors télévision, mots croisés, et puis voilà, on attend. Ça a été assez dur quand même.
L'octogénaire prévoit de reprendre la marche.
Messieurs, dames, je vous remercie beaucoup, passez une très bonne journée.
À la caisse, Shaoqi, vendeur de fruits et légumes, le remarque, quand il fait très chaud, il y a moins de monde dehors.
La majorité de notre clientèle, ce sont des vieilles, voilà, donc c'est un peu difficile pour eux de sortir et faire les courses. Ça va refroidir, on va remarquer plus de monde sur le marché. Ouais.
Tout le monde ici espère un rafraîchissement, un peu de pluie pour la végétation. Le petit Lincoln, lui, attend même déjà avec impatience l'hiver et Noël.
Parce qu'il fait frais, en plus on peut avoir des cadeaux.
Bon, pour Noël, il va falloir quand même patienter un petit peu. Reportage ici, Provence, de Gabin Grulé. Dans le Loiret, un jeune homme de 19 ans est en détention provisoire, soupçonné d'avoir tué un adolescent de 16 ans dans la nuit de vendredi à samedi à Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans. On va faire le point sur l'enquête avec vous, Marion Aquilina. Bonjour.
Bonjour.
Du service police-justice de France Inter, le meurtrier présumé reconnaît avoir tiré en direction d'un groupe de jeunes, mais il nie avoir voulu tuer quiconque.
Il est 2h du matin. Cet homme de 19 ans regarde la télévision quand un membre de sa famille l'alerte sur des jeunes qui traînent dans la rue. On est dans un quartier résidentiel réputé paisible de Fleury-les-Aubrais. Le suspect vient de fumer un joint. Il sort de chez lui armé d'un pistolet automatique qu'il n'a pas le droit de détenir. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il avait tiré une fois en l'air, la seconde fois en direction du groupe d'adolescents qui se serait mis à courir vers lui. Sauf que 4 douilles ont été retrouvées au sol et ces jeunes ont une toute autre version. Ils reconnaissent qu'ils volaient des affaires dans des voitures. Quand ils ont vu un homme sortir, ils auraient pris la fuite et entendu plusieurs coups de feu. Ils se réfugient dans un jardin, mais un des adolescents se plaint de douleur au dos et s'effondre. Il avait 16 ans, ses copains sont traumatisés, rapporte le parquet d'Orléans qui souligne qu'il n'était pas armé. Le suspect a déjà été condamné plusieurs fois, notamment pour du trafic de stupéfiants. Il a déclaré qu'il se sentait menacé depuis un certain temps et qu'il ne connaissait aucun de ces jeunes.
Merci Marion Aquilina pour toutes ces précisions. À Vénissieux, dans le Rhône, c'est une fuite de gaz qui a vraisemblablement provoqué l'explosion survenue cette nuit dans un appartement l'occupant un homme de 70 ans et mort dans cette explosion. 150 personnes ont été évacuées. À 13h11 sur France Inter, on en vient à cette nouvelle campagne de rappel lancée par les autorités qui concerne certains propriétaires de Peugeot 308. Bonjour Luc Chemelin.
Bonjour.
Le site gouvernemental Rappel Conso fait la liste des modèles qui sont rappeler en raison, Luc, d'un problème sur les ceintures de sécurité.
Ah oui, sur des sièges arrière. Il y a un problème sur certains ancrages essentiels pour tenir la ceinture. Conséquence, en cas de choc particulièrement fort, ils peuvent, dans certains cas, ne pas résister. Donc, la ceinture ne fait pas son travail et ne protège pas correctement le passager. Le rappel concerne des Peugeot 308 produites entre 2015 et 2019. Les modèles concernés ont un numéro d'homologation spécifique écrit sur le site du gouvernement et que vous pouvez retrouver ensuite sur la carte grise.
Alors, comment expliquez-vous que le rappel se fasse aussi longtemps après les dates de fabrication ?
Eh bien, il faut déjà avoir un nombre conséquent d'exemples concrets de cas défectueux pour faire un rappel, ce qui prend du temps, surtout qu'il faut ensuite les analyser pour être sûr de l'origine. Et puis, le contexte y est aussi pour beaucoup, analyse Bernard Julien, maître de conférences en économie à l'Université de Bordeaux, spécialiste de l'industrie automobile.
Étant donné ce qui s'est passé récemment avec les airbags Takata, Stellantis a tout avantage de ne pas attendre une injonction de la part des autorités. Ils ont un problème principal, la gestion de leur capital marque. Celui-ci est largement entamé aujourd'hui et fait qu'il y a des opérations de reprise sur les véhicules qui deviennent très compliquées. Et donc il y a une espèce d'obligation stratégique, comptable, financière et commerciale de prendre le problème à bras-le-corps.
En tout cas, les utilisateurs concernés par ce rappel doivent contacter leur concessionnaire pour faire des vérifications sur leur ceinture.
Luc Chemelin, service économie de France Inter, merci. Je redonne le nom du site Rappel Conso pour savoir si vous êtes concerné. Et puis ces dernières semaines, ce sont des rappels massifs de fromage qui avaient été menés dans les supermarchés français, mesure de précaution. Après une série de cas de listériose, dont 2 mortels, il y a une fromagerie de la Creuse. 4 nouveaux cas ont été identifiés, cette fois à l'étranger, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Ils vont tous tenter d'attirer votre attention par leur couverture, leur originalité ou la renommée de leurs auteurs. 484 romans sont en train de paraître puisque c'est la rentrée littéraire. Bonjour Iliana Mourioussef.
Bonjour.
Alors il y a les valeurs sûres de Sorg Chalandon à Emmanuel Carrère. Et puis il y a aussi les premiers romans, 73 cette année. C'est plus 7% de plus que l'année dernière selon le décompte de Livre Hebdo. Et on peut, Iliana, y voir une forme de pied de nez au marasme de l'édition.
Oui, les éditeurs accueillent encore des voix nouvelles et c'est plutôt un signe de vitalité, alors même que les ventes de livres ne sont pas très encourageantes. Parmi ceux qui prennent des risques, pas mal d'éditeurs dits petits. Commençons donc par Juliette Ponce, éditrice chez Dalva. Elle croit énormément dans le premier roman de Séverine Cressant, Nourrice, au pluriel, sur les femmes à qui l'on confiait autrefois des enfants en bas âge pour qu'elles les allaitent contre rémunération. Au Diable Vauvert, l'auteur et compositeur Arbon publie Les derniers jours de Harry Yuan, une sorte de thriller à la Monte Cristo. Le fondateur d'une maison d'édition en ligne enquête sur l'investisseur chinois qui a racheté son entreprise l'entreprise avant de se volatiliser. Autre enquête pour Reine Bélivier avec L'Aideuse aux éditions Bourgois. Une fille cherche à comprendre pourquoi sa mère a quitté le domicile familial et disparu sans un mot. C'est l'occasion de revenir sur la condition féminine dans les années 50. Complexité du couple, difficulté du rôle de parent aux prises avec un enfant violent, c'est le sujet de Il pleut sur la parade de Lucie-Anne Belgi chez Gallimard. On ne peut pas les citer tous, malheureusement. On finira donc par 4 jours sans ma mère de Ramsès Kéfi chez Philippe Rey. Une voix, une écriture, un humour décapant pour dire la complexité du rapport aux origines.
Iliana Morioseff, merci. Service culture de France Inter. Voici donc de bonnes idées de premier roman à mettre dans votre valise si vous avez la chance d'avoir encore des vacances en perspective. Et d'ailleurs, si vous prévoyez un voyage, sachez qu'il faut faire attention à l'intelligence artificielle. Bonjour Stéphane Jourdain.
Bonjour Céline.
Depuis quelques jours, beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux de vacanciers qui ont fait aveuglément confiance à ChatGPT et qui n'auraient peut-être pas dû.
Et oui, et le dernier en date est très viral, 6 millions de vues pour les larmes d'une influenceuse espagnole refusée à l'entrée d'un vol pour Porto Rico. ChatGPT lui a fait remplir le mauvais formulaire d'entrée. Même galère pour cette tiktokeuse marocaine qui n'a pas pu s'envoler pour les îles Fidji la semaine dernière.
Je suis censée partir aujourd'hui et là je peux plus à cause de ChatGPT qui m'a gâché le mon putain de voyage.
Là aussi, problème de visa. Mais ChatGPT se trompe aussi sur la bonne heure pour admirer la Tour Eiffel au coucher du soleil ou sur des restaurants fermés depuis longtemps à Berlin. Ce sont les fameuses hallucinations des IA. Et pour l'instant, il faut faire avec. C'est le message de Nick Turley, responsable de ChatGPT, dans un podcast américain ce week-end.
Vous savez, il y a un monde entre être très fiable et être 100% fiable. Et donc, pour l'instant, notre recommandation, c'est de vérifier tout ce que dit ChatGPT. Il faut l'utiliser comme un deuxième avis, pas comme une source d'information principale.
Bref, pour vos vacances, utilisez ChatGPT pour défricher, mais ne lui donnez pas les clés du camion.
Merci beaucoup, Stéphane Jourdain, pour cet appel à la vigilance. Et d'ailleurs, pour la météo, c'est la même chose. Pas besoin d'intelligence artificielle, puisque vous avez France Inter.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
C'est avec vous, vous êtes bien un humain. Bonjour Olivier Proust.
Bonjour.
Et la chaleur régresse.
Oui, comme vous l'avez dit, un dernier jour de canicule en Méditerranée. Demain, le rafraîchissement s'étendra jusqu'aux 7 derniers départements, encore en orange. En attendant, il fera encore 34-37 degrés autour du golfe du Lion jusqu'en Provence, 33 à 34 en Rhône-Alpes. Ailleurs, chaleur plus modérée, avec bien souvent les 30 degrés atteints jusqu'à la Loire, sauf en Aquitaine qui continue de se rafraîchir. Finalement, on attend 26-29 degrés à Dax, à Bordeaux, comme à Paris, Nancy ou à Lille.
Et les nuages ont déjà pris les commandes à l'ouest de la France. Hein.
Oui, des nuages océaniques mêlés des fumées d'incendie ibérique et qui donnent encore cet après-midi quelques ondées orageuses éparses de l'Occitanie à toute la façade ouest. Et des orages forts pourraient se déclencher sur l'est des Pyrénées, débordés ce soir en plaine. Le risque orageux subsiste également en Haute-Provence et en Corse. Plus à l'est et plus au nord, le soleil persiste. Demain, on surveille des pluies orageuses parfois fortes, notamment du sud-ouest vers le sud-est en journée, mais également en Bretagne, avec de bons cumuls parfois là aussi. Plus au nord et plus à l'est, le ciel deviendra laiteux, toujours irisé par la fumée des incendies.
Merci Olivier Proust de Météo France.